Avec un autre auteur que l'on aime beaucoup, Tolkien, Mathilde Serrel, vous voulez nous parler de l'œuvre majeure de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, qui sera bientôt adaptée en série.
Oui, 20 ans après sa première adaptation au cinéma par Peter Jackson et 46 ans après la mort de son auteur, Le Seigneur des Anneaux, de l'écrivain anglais John Ronald Reuel Tolkien, comme ça vous connaissez mieux les initiales de J.R.R. désormais célèbre, va devenir la série la plus chère de l'histoire. D'ici novembre 2019, le tournage de cette production d'Amazon, estimé à 1 milliard d'euros, devrait commencer pour au moins 5 saisons. Avec ce mastodonte prévu pour s'imposer comme le nouveau Game of Thrones, le pari financier n'est certes pas très risqué, tant les aventures de la Terre du Milieu et de la Communauté de l'Anneau sont devenues une des plus grosses vaches à lait de la pop culture. Au-delà de ces enjeux qui relèvent désormais de l'industrie culturelle, comprendre le succès du Seigneur des Anneaux, c'est l'occasion de se replonger dans la puissance de l'œuvre de Tolkien. Au mois de mai, l'université d'Oxford, où Tolkien a été professeur, publiera un livre-événement se basant sur des reproductions de manuscrits, de dessins, de cartes, de lettres, d'alphabets, qui devraient permettre d'appréhender avec plus de netteté la profondeur du processus créatif qui a engendré la Terre du Milieu et ses personnages iconiques, Frodon, Gandalf, Legolas et bien sûr Guillaume, c'était pour vérifier. Gollum. En juin,
Gollum, celui qui est dans les souterrains.
Exactement. En juin, la vénérable Bodleian Library d'Oxford présentera même, pour la première fois rassemblée depuis les années 50, les matériaux qui ont présidé donc à la naissance de cette œuvre. En attendant, un hors-série disponible aujourd'hui en kiosque, hors-série du Point Pop, livre déjà une analyse approfondie, littéraire, philosophique, de ce grand syncrétisme de mythes que constitue le Seigneur des Anneaux. Pour l'aborder, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Tolkien n'a pas créé des langues pour son monde, mais un monde pour ses langues. Comme nous le rappelle la rédactrice en chef de ce hors-série, Falaine de la Valette.
En fait, Tolkien, il est d'abord parti des langues, et parce qu'il avait besoin de donner une crédibilité à ses langues, il a créé un univers dans lequel elles pourraient être parlées par des peuples. Il était passionné depuis tout petit par le son des mots, par la linguistique. Il s'est initié très tôt au latin, à 4 ans, il commençait déjà à s'intéresser à tout ça. Et donc quand il est devenu adolescent, il s'est intéressé à ce qu'aurait pu être la langue parlée par les peuples anciens du passé, de l'Angleterre, etc. Et il en est venu petit à petit en étudiant différentes langues anciennes, que ce soit le finnois, le vieil anglais, etc., à constituer lui-même une langue qui s'appellerait le Kenya et qui deviendrait la langue de son peuple elfique. Et donc une fois qu'il avait créé cette langue, bah, il s'est dit c'est très bien, mais qui parlera cette langue et pourquoi elle existe? Et il en est venu à créer l'univers de la Terre du Milieu et donc le cadre du Seigneur des Anneaux.
CQFD, comme le répétait Tolkien, médiéviste, poète et philologue, son œuvre est d'inspiration fondamentalement linguistique. Chez moi, disait-il, le nom vient en premier et l'histoire suit. Et de fait, l'onomastique, la science des noms propres appliquée aux fictions de Tolkien, est peut-être une des meilleures portes d'entrée. Prenez le personnage de Gollum. Donc, lorsqu'il était un hobbit, il se prénommait Sméagol, un mot dérivé du vieil anglais qui désigne une sorte de chose rampante qui creuse un sillon. Un mot souvent utilisé dans la littérature anglaise ancienne pour décrire les dragons associés aux trésors auxquels ils se cramponnent. On retrouve là forme et caractère de Gollum, monstre visqueux, obsédé par son précieux d'un bout à l'autre du roman.
Mon précieux !
C'est finalement... peut-être l'ancêtre de Louis de Funès, j'ai pensé. Gollum est également ce personnage qui révèle tous les mythes sources dans lesquels Tolkien est allé puiser. Il y a chez Gollum le monstre ogresque du grand poème épique anglais Beowulf. Il y a le Caliban, créature mi-homme, mi-poisson de Shakespeare dans La Tempête. Le Dorian Gray d'Oscar Wilde, aussi tant il est le reflet de ce que pourrait devenir Frodon le Hobbit s'il cédait à l'envoûtement de l'or. Et enfin, cet autre que moi, cette part d'ombre qui siège en chacun de nous, comme le définit Jung. C'est aussi le premier meurtrier des Écritures. Un véritable Caïn. On écoute à nouveau Falaine de la Valette.
Dans Gollum, on va voir des résonances bibliques, puisque son premier crime, en fait, finalement l'acte qu'il a poussé à devenir Gollum, alors qu'il était au départ un simple hobbit appelé Sméagol, c'est un meurtre. Il assassine son ami Beagle, qui a trouvé l'anneau. Et donc là, finalement, on retrouve le premier crime décrit par la Bible, le premier crime de l'humanité, qui est le meurtre d'Abel par Caïn, et la malédiction qui s'ensuit avec Caïn, qui est chassé des terres et qui, finalement, passera sa vie entière à subir le poids de ce meurtre. Et là, pareil pour Gollum, qui va errer sans fin et qui va être pris par sa conscience et par cette sorte de malédiction de ce meurtre originel.
La puissance de Tolkien réside donc dans son savoir immense et sa capacité à composer ce code multisource unique qui est devenu lui-même un mythe.
Merci beaucoup, my precious. Je rappelle également à ceux qui ne le savaient pas encore que Tolkien va continuer à publier, même s'il ne répond plus à nos sollicitations. Tolkien va publier La chute de Gondolin, qui raconte la bataille entre Morgoth et Ulmo. L'histoire aurait été rédigée lorsque l'écrivain britannique était en convalescence après la bataille de la Somme, donc en 1916.